BW. Vue d'Allemagne.
Auf Annegret Kramp-Karrenbauer entfielen 517 Stimmen, das sind 51,75%. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt.
Annegret Kramp-Karrenbauer, élue avec 51,7% des voix, nouvelle présidente et nouvelle ère pour le Parti conservateur allemand, la CDU, après 18 ans de règne d'Angela Merkel. C'était vendredi, la semaine dernière, vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne, vote très commenté et très suivi dans toute l'Allemagne aussi. Alors, quelles conséquences pour la CDU, la politique allemande en général et l'avenir politique de la République fédérale après ce vote ? On tente d'y voir plus clair, en tout cas un peu plus clair, dans un instant. Et puis dans la seconde partie de Vue d'Allemagne, passage de la frontière ouest, on part en Belgique, au musée de Tervuren, l'Afrika Museum. Il vient de rouvrir ses portes au public avec la volonté de faire une vraie critique du passé colonial. Il y a encore du travail. Vue d'Allemagne, vous avez le sommaire. Willkommen, bienvenue à tous. Los geht's, c'est parti.
Und jetzt ist es an der Zeit.
Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Aujourd'hui, en cette heure, en ce moment, je suis submergée par un seul sentiment, la reconnaissance. Ce fut un grand plaisir pour moi, un grand honneur. Merci beaucoup.
Angela Merkel remercie son parti. Elle quitte donc la tête de la CDU et c'est quelques heures après qu'Annegret Kramp-Karrenbauer prendra sa place après ce discours d'adieu donc d'Angela Merkel. Un changement, une élection, comme on connaît régulièrement tous les partis en Allemagne, sauf que celle-là est donc particulière puisqu'elle marque la fin de l'ère Merkel à la CDU. La chancelière cède la présidence du parti après 18 ans et quittera aussi le pouvoir fédéral à la fin de son mandat ou plus tard en 2021. Place de chancelière qu'elle occupait depuis 2005. Bonjour professeur Dr. Frank Bassner.
Bonjour.
Vous dirigez l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg en Allemagne depuis 17 ans et avez une longue carrière universitaire en France, en Allemagne, dans plusieurs établissements. Alors on revient avec vous sur cette élection aujourd'hui. On le disait sur notre antenne récemment, il y avait trois candidats en jeu pour cette élection. Annegret Kramp-Karrenbauer, la candidate soutenue et propulsée par Angela Merkel, Friedrich Merz et Jens Spahn. C'est donc la première, AKK, qui a été élue avec une très courte majorité, une femme de 56 ans qui était jusque-là secrétaire générale de la CDU. C'est la plus modérée des trois candidats, on peut dire ça ainsi.
C'est vrai que Mme Kramp-Karrenbauer est peut-être celle qui est quand même le plus proche de la chancelière Angela Merkel. Donc dans ce cas, c'est plutôt la continuité qui l'a remportée.
Avec des positions assez centristes, on peut dire ça comme ça, même si elle a des points de désaccord avec Angela Merkel sur plusieurs questions.
Il faut bien qu'elle se démarque un peu. Ce serait quand même absurde de simplement dire les gens sont contents qu'il y ait un changement et puis continuer tout comme c'était avant. Mais il n'y aura pas beaucoup de rupture non plus avec le style ou avec même les prises de position d'Angela Merkel.
Mais sur la question de la migration, par exemple, elle s'est plusieurs fois démarquée de la chancelière dans le passé.
Quand on regarde la réalité de la politique menée par Mme Merkel depuis 2015, quand il y a eu donc ce grand nombre de réfugiés de guerre essentiellement, qui sont arrivés en Allemagne, même Angela Merkel a changé quand même de politique. C'est beaucoup plus restrictif, c'est beaucoup plus protection des frontières de l'Union européenne, c'est beaucoup plus maîtriser les flux migratoires. Elle a fait son déplacement en Afrique dans plusieurs États pour négocier avec les États d'origine de beaucoup de réfugiés migrants, disons plutôt, qui cherchent notre avenir en Europe. Donc elle a aussi beaucoup évolué et beaucoup changé. Mais par rapport au public allemand, c'est vrai, comme il y a ce parti de droite, voire d'extrême droite, AfD, qui est classiquement anti-immigration tous azimuts, eh bien oui, elle se démarque peut-être d'Angela Merkel en étant un peu plus stricte dans ses termes.
Ouais, mais pas de rupture, de vraie rupture à venir selon vous donc.
Pas du tout.
Concernant la CDU, qui est donc, vous le disiez, un parti historique, il est aujourd'hui cassé entre plusieurs courants. Il y a un courant centriste, on va dire, celui d'Angela Merkel et un qui est plus à droite, qui dénonce même parfois une politique de gauche en parlant d'Angela Merkel, un parti déchiré, ouais, disent certains, le nouveau secrétaire général qui est le nouvel allié d'Annegret Kramp-Karrenbauer, est de ce courant, est-ce que ça peut ressouder la CDU aujourd'hui et la faire repartir de l'avant après cette ère Merkel un petit peu?
Puis on le verra bien, de toute façon il faut dire que ce grand parti, comme il est très grand, il a quand même gouverné pendant les 50 ans sur les 70 globalement de la République fédérale d'Allemagne, donc ce parti avait toujours différents courants. Hein. Il y a toujours eu ceux qui plutôt misaient sur une économie sociale de marché, donc les libéraux, pour simplifier, et un côté plutôt équilibre social, prestations sociales. Donc ça existe depuis longtemps. C'est vrai que quand on regarde les têtes qui ont porté ces deux courants, Madame Kramp-Karrenbauer et Friedrich Merz, c'est vrai qu'il y avait aussi une différence de style, de langage, de récit qu'on a pu observer. Maintenant, le nouveau secrétaire général, il est assez jeune. On lui reproche de ne jamais vraiment avoir travaillé, de ne pas avoir terminé ses études universitaires. Bon, on va voir si ça compte. Je ne pense pas qu'il ait aujourd'hui la force de ressouder le parti. Tout dépendra de la question de savoir si M. Merz, qui était quand même presque majoritaire, il ne faut pas oublier, c'est vraiment moitié-moitié hein, des votes des délégués, si lui, il veut bien s'associer à une démarche commune. Dans ce cas-là, oui, même le nouveau secrétaire général pourra avoir sa place pour rééquilibrer entre les deux courants.
La CDU, qui aujourd'hui est un petit peu en perte de vitesse, avec Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a cette image de proche de Merkel, d'allié, on sait que ça ne plaît pas forcément, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont des élus de l'Est de l'Allemagne. Dans l'Est, or, il y a des élections régionales dans le Brandenburg, la Saxe et la Thuringe l'an prochain. Est-ce que, selon vous, le parti peut aller de l'avant jusque-là pour proposer quelque chose et regagner des électeurs ?
Il reste quand même pas mal de mois. On peut se préparer à ces élections et à la campagne pour ces élections. Donc, en effet, le grand défi pour la nouvelle présidente du parti, c'est de démontrer qu'elle sait mener ce grand parti avec ses différents courants, avec ses différents barons, avec ses différentes têtes qui ont évidemment leur opinion. À la fin de l'année 2019, on saura si elle peut durer dans sa fonction, si elle peut prétendre à succéder à Angela Merkel comme prochaine candidate à la chancellerie. Ce n'est pas joué encore, hein. Je ne pense pas qu'elle ait déjà tout gagné, parce que le vote a été très juste, il y a même des membres du parti qui quittent le parti parce qu'ils ne veulent pas suivre ce même cours de centre, centre-droite, parfois centre-gauche. Donc ce n'est pas joué, et si on se reparle d'ici l'automne 2019, on en saura davantage.
Pour le SPD, qui est le parti social-démocrate, à qui une certaine base dans ce parti a reproché de gouverner avec Angela Merkel, cette élection d'Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est plutôt un mauvais signe pour vous? On aurait pu se dire que si c'était Friedrich Merz, le parti se serait positionné plus à droite et que ça aurait pu être plus simple pour le SPD. Comment ça peut évoluer pour ce parti SPD aujourd'hui avec AKK à la tête de la CDU?
En effet, si vous êtes dans une coalition que les deux partenaires, aussi bien chrétien-démocrates que sociaux-démocrates, n'ont pas voulu au fond, il est plus facile pour le SPD d'avoir un président de parti des chrétiens-démocrates qui soit clairement différent, pour marquer ces différences. Là, avec AKK, c'est un peu la continuité. Hein. C'est le système Merkel qui s'assoit très fortement dans le centre de la société, qui essaye d'étouffer des prises de position trop divergentes. Donc oui, pour la SPD, ce sera plutôt difficile de se démarquer si le parti décide de rester dans cette coalition. On peut évidemment imaginer aussi une rupture de cette coalition.
Avant 2021.
Et la fin du gouvernement avant l'échéance normale. C'est beaucoup discuté, quelques-uns dont la SPD le souhaitent, mais le risque évidemment, c'est si on passe tout de suite aux urnes, ça ne va pas forcément profiter aux sociaux-démocrates, parce qu'ils doivent d'abord se refaire une santé de programme, ils doivent se démarquer, et ça, le faire au sein même du gouvernement, c'est compliqué.
Justement, vous parlez de programme, on parlait là de politique politicienne, on peut peut-être dire ça comme ça. Quels sont les défis, selon vous, auxquels les grands partis, que ce soit la CDU, le SPD, ont à faire face aujourd'hui en Allemagne? C'est quoi? C'est l'Europe? C'est le système des retraites en Allemagne? C'est Angela Merkel parlait des différences ville-campagne il y a peu. Quels sont les grands défis de société aujourd'hui auxquels les partis doivent s'attaquer?
Je pense qu'il y a, comme dans beaucoup d'autres pays européens, il y a un problème de fond, c'est une perte de confiance dans la classe politique en général. Ça, c'est très difficile à soigner, et il faut surtout du temps, et il faut des personnalités crédibles. Bon. Et ça ne concerne pas un dossier technique spécifique, hein. C'est plutôt une question de principe. Ça concerne un peu tout le monde. C'est grave, parce que c'est la base même de la démocratie représentative. Si j'ai pas confiance dans mes élus, il y a un problème. Bon, ceci dit, il y a des défis sur la table. Tout le monde sait que l'Allemagne est un pays vieillissant, allègrement vieillissant d'ailleurs, mais qui manque de jeunes, donc qui aura et a déjà extrêmement besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et on n'a pas une loi, par exemple, d'immigration organisée. On commence à s'en occuper. Donc je pense que ce sujet de la migration reste quand même important, mais non pas comme un phénomène subi simplement, mais il faudrait quand même que l'Allemagne soit capable de définir comment, qui peut, veut venir dans certaines catégories professionnelles pour travailler, ne serait-ce aussi un certain temps, hein, pas forcément pour une vie entière, en Allemagne. Ça, c'est un grand défi. Donc le manque de main-d'œuvre qualifiée, ça, tout le monde vous le dit, ça, c'est un grand défi. Deuxième grand défi qui va avec le vieillissement, c'est les retraites, comme vous avez dit. Et peut-être pour faire un parallèle avec la France actuellement, avec ce mouvement des Gilets jaunes, nous avons évidemment en Allemagne comme en France, une partie de la population qui est dans l'activité, des gens qui ont de l'emploi, tout à fait normal, et pas dans les tout petits salaires. Hein. C'est des salaires quand même qui normalement devraient suffire pour gagner une vie décente et pour payer la vie à sa famille. Et il y a quand même une frange de cette partie de la société qui risque de tomber un jour dans la précarité, de perdre en niveau social. Si l'Allemagne ne réussit pas à réaliser la vieille promesse qui consistait à dire celui qui travaille beaucoup aura toutes les possibilités de faire une ascension sociale. Si ça n'est plus possible, on aura un problème de sclérose, si vous voulez, de la société qui était quand même basée sur le travail, sur l'effort, sur la volonté de faire et sur une rémunération adéquate. Je pense que c'est là le vrai problème social. Ce ne sont pas les plus pauvres. Il y a des démunis, évidemment, qu'il faut aider, oui. Mais ceux qui travaillent, ceux qui font des efforts et ne progressent pas. Là, je pense qu'il y a vraiment un dossier qu'on sous-estime aujourd'hui. Et il y a des partis politiques qui en parlent, mais ce n'est pas encore à la une de l'agenda.
Et c'est des questions qui devraient revenir, parce qu'on le disait, il y a des élections qui approchent en Europe et en Allemagne l'an prochain. 2019 sera une année importante.
Absolument, il y a pas mal d'élections. Mais une fois de plus, parfois, les grands sujets, c'est des sujets long terme dans nos sociétés. Et les élections, c'est 4 ans, 5 ans maximum. Donc, c'est quand même un cycle assez bref. Est-ce qu'on aura des hommes et femmes politiques qui osent parler des défis structurants pour les 10, 15, 20 prochaines années? Là, il est permis d'en douter.
Des questions dont on reparlera en tout cas dans Vue d'Allemagne. Le professeur Dr. Frank Bassner, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg en Allemagne. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Allô, allô, si c'est Klein et Angie. Allô, Angela, si de Bonnie Glatt.
Bonjour, bonjour, mignonne petite Angie. Udo Lindenberg, l'un des vétérans figures du rock en Allemagne, aux plus de 20 millions d'albums vendus. En 2005, il craque, on peut dire ça comme ça, et sort cette chanson satirique où il raconte un rendez-vous amoureux fictif avec Angela Merkel. Chanson entre critique politique et paroles sensuelles complètement barrées. Peut-être, qui sait, qu'Angela Merkel l'a écouté après son discours d'adieu à son parti la semaine dernière. Vue d'Allemagne, seconde partie de ce magazine, on prend la direction de la Belgique et de Tervuren, où le Musée Royal d'Afrique Centrale a rouvert ses portes la semaine dernière. Devenu Africa Museum après 5 ans de travaux, ses équipes veulent désormais porter un regard critique sur le passé colonial belge, en plein débat sur la restitution des œuvres en Europe. Alors pour Vue d'Allemagne, Wendy Bachy s'est rendue sur place pour visiter ce musée, découvrir le travail avant sa réouverture. Et résultat, peut mieux faire. Reportage.
Le Musée Royal d'Afrique Centrale n'était plus accessible au public pendant 3 ans suite à des travaux de rénovation. Rénovation de l'exposition permanente qui ne l'avait plus été depuis les années 50. Lors de la conférence de presse organisée le 5 décembre dernier, Guido Greissel, l'actuel directeur du musée, s'adresse à la presse en expliquant les nouvelles ambitions de son institution.
Je suis extrêmement fier et honoré de pouvoir vous accueillir ici aujourd'hui. Exactement 120 ans après la création du musée du Congo, dans notre nouveau musée, avec une toute nouvelle exposition permanente, avec un nouveau tram général sur notre passé colonial et sur l'Afrique contemporaine, et dans une nouvelle infrastructure dont vous voyez déjà à ce moment notre nouveau auditoire. Nous sommes extrêmement fiers de cette nouvelle infrastructure.
À applaudit dans la salle, la démarche du directeur du musée est loin de faire l'unanimité. Tout au long du processus de rénovation, le musée décide à un moment d'associer des membres de la diaspora congolaise. Un groupe de 6 experts est constitué. Anoué Tsimpoma est historienne de l'art, elle en fait partie et revient sur son parcours au sein du groupe des 6.
Le musée de Tervuren est en discussion, en dialogue avec les diasporas africaines à travers le Comraf depuis 2003. Et dans le processus de rénovation de l'exposition permanente, à un moment, ils se sont rendus compte que, au niveau des associations africaines, ils avaient envie de participer plus activement au processus de rénovation de l'exposition. Et ils ont choisi de faire appel à des gens de la diaspora qui avaient des compétences en histoire de l'art, en ethnographie, en muséographie. On a participé à des réunions, mais c'était pas exactement des réunions de création. Et là, il y a eu quand même pas mal de frustration de notre part, parce que pourquoi nous a-t-on appelé ? Pourquoi nous a-t-on fait travailler si au final on met le projet dans une petite boîte en disant ce sera pour la prochaine fois, parce que maintenant on est arrivé trop loin dans le processus de rénovation que pour pouvoir venir avec des nouvelles propositions. Et donc là, on a quand même senti un petit peu l'instrumentalisation.
La démarche du musée et ses ambitions continuent de susciter le débat. Géraldine Taubé est une jeune artiste plasticienne qui vit à Kinshasa. Ses œuvres sont actuellement exposées à l'Africa Museum, mais elle s'interroge tout de même sur la démarche du musée.
Je travaille avec le feu, j'exploite de la fumée comme de la peinture, et à travers ça, je m'exprime sur des différents aspects de la société, évidemment de l'histoire aussi. Apparemment, le musée a donné un pas qui se voit un peu, un tout petit peu, qui sont maintenant ouverts. Accordons-les les temps, comme ça on verra bien dans le futur si réellement ils vont rester sur la colonisation ou bien ils vont ouvrir des portes.
Ouvrir des portes, oui, mais ces portes resteront-elles ouvertes lorsque la demande officielle du gouvernement congolais arrivera en Belgique? À la veille de la réouverture de l'Africa Museum, le président sortant, Joseph Kabila, a fait savoir qu'une requête officielle allait être faite concernant des œuvres congolaises se trouvant sur le territoire belge. Pour le professeur Dibwe, venu de RDC pour participer aux activités de réouverture, il rappelle que ce débat n'est pas neuf et qu'il faut bien faire la part des choses.
Mobutu en a parlé à l'ONU et il y a eu un début de restitution. Maintenant, c'est un discours, c'est un processus. Il y a un problème de patrimoine, c'est notre patrimoine. Évidemment, il faut faire la part des choses. Il y a des œuvres qui ont été données comme des dons par les chefs coutumiers, mais il y a aussi des dons qui ont été pillés. Maintenant, le travail qui se fait ici, c'est de savoir la provenance de ces différentes œuvres, etc. Mais nous n'avons pas d'infrastructure, c'est vrai. Mais est-ce que nous n'avons pas de place? Et il n'y a pas que le musée de Kinshasa, il y a aussi le musée national de Lubumbashi, qui a des salles, qui a de la place où on peut faire ça. Il y a le musée qu'on a construit et qui sera inauguré, je pense, l'année prochaine. Le reste, il y a ce problème de partenariat, il y a le problème de circulation même des objets.
En attendant la demande officielle de restitution d'œuvres d'art du gouvernement congolais à la Belgique, les portes de l'Africa Museum, elles, restent ouvertes. Et l'équipe du musée va poursuivre, tant bien que mal, son travail de décolonisation artistique. Wendy Bachy à Bruxelles pour la Deutsche Welle.
Reportage et magazine complet à retrouver sur le site de la DW dans la médiathèque, rubrique Vue d'Allemagne. Pour ce numéro, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez Anne Letouzé à la même place, à la même heure, la semaine prochaine. D'ici là, alles Gute, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Tschüss.